Première chose que je voulais vous dire, c'est que j'étais avec François Calisque au séminaire français à Rome. Voilà. C'est pour ça qu'on se connaît bien. Et on était députés plutôt de bavards. On nous avait mis en compétition un jour pour défendre l'un le bon usage des ceintures et l'autre le bon usage des bretelles. Hein. Voilà, ça c'est juste pour le fun. Pour ce qui est de Église et sport, en fait. Moi, je n'étais pas spécialement dans le coup du tout. C'est simplement lorsque je suis passé à Rome, au Vatican, fin février, les responsables de famille et société, on est allé travailler dans les dicastères. Et je suis resté 3 jours de plus parce qu'il y avait un colloque sur l'intelligence artificielle. Et quand on est passé dans le dicastère, puis les familles laïques et vie, on a été rattrapé par Santiago, moi et puis Monseigneur Feillet, qui est le président du Conseil Famille et Société, en nous disant, du côté du sport en France, on n'a pas de vis-à-vis dans la conférence, on connaît un certain nombre de personnes, mais voilà, dont Pascal, entre autres, Girard, et Gilles Lecoq, et voilà, et Laurence Munoz, etc. Donc, en fait, on a eu une longue discussion, et puis on a dit qu'on allait essayer de mettre en place une espèce de coordination. Voilà. Alors, dans la structure de la conférence épiscopale, c'est toujours compliqué les conférences épiscopales. Première chose, c'est une espèce d'étage intermédiaire au niveau national qui est, comment dire, au service de toute la nation, disons ça comme ça, hein, de tous les diocèses de France. Alors, en même temps, avec une qualification juridique qui se cherche encore, hein, donc on attend de voir ce que va donner le nouveau synode qui est annoncé, donc le synode des évêques qui aura lieu justement sur tout ce qui est la synodalité. Hein, j'espère que les choses vont se préciser. J'ai été autorisé là cet été à faire des recherches dans les archives de l'Église de France, dans des choses où accèdent seulement les évêques et entre autres, tous les comptes rendus des conseils permanents. Et quand on fait l'histoire depuis les années 50, à ce moment-là, ça s'appelait l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, jusqu'à aujourd'hui, je regarde ce qui concerne les structures de la conférence des évêques de France, c'est toujours en réforme. En fait, ils sont toujours en train de se poser la question comment on s'organise. Et donc, c'est une question qui est encore vraie. Hein, il y a un an et demi, il y a eu un projet, et quand il a fallu le voter, il a été retoqué. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas toujours extrêmement simple, les rapports entre conférences épiscopales et diocèses. Chaque évêque étant maître en son diocèse, les rapports sont un peu divers. Et normalement, dans la mission de l'évêque, il est responsable de l'église diocésaine, mais il est aussi... à être en collégialité avec les autres évêques, et ça fonctionne plus ou moins bien, quoi. Voilà. Donc la doctrine sociale de l'Église nous invite à organiser tout ça selon un certain nombre de principes, et c'est pas tout à fait au point, pour être clair. Ça va vous aider à comprendre d'autres petites choses après. Donc, en fait, au point où on est de l'organisation de l'Église de France pour le moment, le Conseil Famille et Société a à sa disposition le service Famille et Société. Dans le service Famille et Société, il y a 3 pôles, en fait. Il y a un pôle Famille, c'est un des pôles les plus chauds, hein, parce que toutes les questions autour de je ne sais pas quoi, moi, la PMA, j'ai dit une chose. Souvent, c'est pas très simple avec les journalistes, les évêques entre eux ne sont pas forcément toujours d'accord. Bon, voilà, c'est un pôle qui échoue. Il y a un pôle qui s'appelle Santé et Justice. C'est intéressant parce que vous avez parlé de la santé hier. Donc, il est piloté par Jean-Marie Onfray, qui est l'ancien vicaire général de Tours. Et là, il y a des très gros réseaux. C'est tout le réseau, par exemple, des aumôneries de prison. Quand on parlait de laïcité hier, on est confronté à ça directement. Quand on parlait des DU, des diplômes universitaires hier, on est confronté à ça. Non seulement on est confronté, mais on est dans les négociations avec l'État, hein, pour mettre au point tout simple. Donc, le réseau des aumôneries de prison, c'est 650 aumôneries pour vous donner une idée. Il y a aussi le réseau de tout ce qui est le monde du handicap. Donc, c'est Christine Bocquet qui s'en occupe. Elle est du diocèse de Lille. Elle est célibataire. Voilà. Et Christine fait un boulot colossal. Pour nous, c'est à croiser aussi, puisque s'il y a les Jeux paralympiques, voilà, il y a aussi toute la place du monde du handicap dans le sport, avec quand même des orientations un peu nouvelles hein, autour de l'inclusion. S'il faut en parler, on en dira deux mots. Et puis, il y a tout le réseau des aumôneries de cliniques et d'hôpitaux, et ça, c'est énorme. C'est encore plus énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a des revues, des formations qui sont organisées, etc. Voilà. Dans le pôle de société dont je m'occupe, qui est une de mes deux fonctions, puisque je suis aussi secrétaire général de la commission justice et paix, au niveau du pôle société, on est censé suivre tout ce qui est la politique, l'économie, l'écologie, donc l'église verte et toutes ces affaires-là, tourisme et loisirs, innovation et recherche, Europe, doctrine sociale de l'église. Alors, c'est un espèce de truc énorme, quoi. Et donc, on fonctionne en mettant de plus en plus en place des think tanks, des groupes de travail. Je vais vous donner un exemple précis, puis après, je vais arriver à nos affaires. Voilà. Un exemple précis, c'est que, par exemple, nous avons un bénévole retraité qui travaille presque plein temps à la conférence, qui est un ancien ingénieur, qui a été responsable des réseaux de France Télécom, mathématicien, entre autres, hein, qui est deux fois ingénieur, et puis qui a après été responsable des cadres de la CFDT, qui a monté l'organisme des cadres de formation, des cadres de la CFDT, et qui est donc aujourd'hui bénévole dans mon service, là, innovation, pour piloter innovation et recherche. Pour piloter innovation et recherche, on a pris un champ précis pour commencer, mais qui est à lui seul énorme, qui est le numérique. Sur la question du numérique, vous voyez bien qu'il y a des questions éthiques énormes, des questions anthropologiques non moins énormes, et aussi une certaine question théologique derrière. Hein. Quel genre d'homme on fabrique les gamins qui sont nés dans le numérique, qu'est-ce que ça fabrique? Ça va très loin jusque sur les questions très techniques, scientifiques, en plein champ de recherche qu'on appelle l'épigénétique. Alors, on a un grand groupe de travail général là-dessus, hein, et on fait intervenir des spécialistes de France, mais même d'Europe et du monde, hein, américains et compagnie. On a dans notre groupe de travail des gens de très très haut niveau, donc je suis obligé de pédaler et de dire énormément pour essayer d'être à peu près dans le coup. On est en train d'écrire un livre, en fait, hein, sur cette question du numérique, qui sera un panorama du numérique et des questions que ça pose. Et en fait, on travaille beaucoup avec des non-chrétiens qui sont très contents de travailler avec nous en disant en dehors de la conférence des évêques de France, il n'y a pas d'autre lieu qui fait vraiment ça. Donc, c'est un peu étonnant, on a un ancien baroniste, on a des gens en tout genre, mais qui sont passionnés, qui petit à petit deviennent vraiment des amis, et c'est une belle opération qui est en train de se faire. Et pour rendre les choses concrètes, on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça deux ateliers très concrets. Un qui est sur la e-santé. Alors vous voyez qu'il y a derrière énormément d'enjeux hein, sur les données personnelles, sur, etc. Bon. Et puis un deuxième atelier qui est sur la cyberdéfense et la cybersécurité, sur lequel je travaille un peu plus près parce que je suis un des spécialistes. Je crois qu'on peut dire ça dans le monde, sur les positions de l'Église, sur le désarmement et le désarmement nucléaire, entre autres, et toutes ces questions-là. Et donc, là aussi, ça bouge très vite, la cyberdéfense, la cybersécurité devient un sujet majeur, les armées se transforment complètement de ce côté-là, et il le faut, et en même temps, voilà, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique, enfin, voilà, vous imaginez les champs de questions que ça pose. Alors, maintenant que j'ai posé ça, pour la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, la PRTL, il y a à peu près 20 ans, était située ailleurs dans Paris, puisque tout a été regroupé à Auteuil, et il y avait jusqu'à 15 personnes bénévoles ou salariés, à mi-temps, à plein temps, à part-temps, pour faire tourner cette pastorale. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne qui est à tiers-temps, donc il s'appelle Pascal de Babochet, qui est dans le diocèse d'Orléans. Et donc, vous imaginez bien que on n'a pas les mêmes moyens qu'il y a 20 ans. Voilà. Et donc, sur cette équipe, il y a une équipe de nationale, hein, pour la PRTL, qu'on a relancée récemment. Alors, le directeur du service famille et société, qui est Grégoire Cattat, un père jésuite assez jeune, qui est à la fois ingénieur et docteur en éthique, surtout en doctrine sociale de l'Église, de Georgetown aux États-Unis. Donc Grégoire, c'est lui qui pilote plutôt l'affaire de la PRTL. Donc on a relancé une équipe nationale, parce que les choses étaient presque effondrées, hein. C'est en train de reprendre corps. On a réussi à faire adopter un texte d'orientation aux évêques de France. Donc ça nous donne un cadre pour avancer. Donc c'est clair que le sport est plutôt rattaché là. Dans le passé, personne ne s'occupait du sport à la conférence, sauf à un moment, Nathalie Bécart qui s'était intéressée à la question. Donc Nathalie Bécart est une Xavière qui était directrice du service national jeune et qui aujourd'hui est membre du synode des évêques. Voilà. Donc Nathalie s'est intéressée parce qu'elle fait de la voile et donc elle s'était un peu intéressée à la question. Donc, pour mettre en place une coordination comme demandait Santiago et le dicaster, on progresse tout doucement. Hein. On a fait deux réunions en visio pour le moment avec un certain nombre de personnes de Luxem, de la FSCD, là, Gilles, Laurence et tout ça. J'ai bien aimé l'expliquer Gilles hier en plus, hein, je le dis au passage. Voilà, il y a le travail tout à fait extraordinaire qu'a fait Pascal jusqu'à maintenant, hein. Et puis Gilles, donc Pascal Girard pour le coup, et puis Gilles Lecoq, voilà, et d'autres, hein. Donc, pour l'essentiel, pour nous, les évêques, c'est pas très évident de leur faire intégrer la question. Donc, statutairement, ça doit être rattaché à la PRTL, donc c'est pour ça que Pascal est dans l'équipe aussi. Mais Pascal a 10 000 choses à faire, donc c'est pas tout à fait facile pour elle de piloter le truc. Donc pour le moment, on a un espèce de pré-comité de pilotage qui est avec Gilles Lecoq, parce qu'il est en retraite et qu'il va avoir un peu plus de temps. Ma pomme pour le moment, hein, sachant que dans un an je ne serai plus là. Et puis, on a été rejoint aussi par Pascal Balmont. Je pense que ce petit comité de pilotage va s'élargir. Je pense qu'il faut qu'il y ait Pascal Girard dedans, etc. Mais ça, on est vraiment en train de commencer à le penser et à mettre en place les choses. L'idée, c'est d'être extrêmement souple, hein. Du côté des évêques, vous avez entendu François Caniste, parce qu'il est bien boosté par Pascal, il est dans le coup et il appuie. Hein. Bon, c'est un copain de séminaire, on en a rediscuté aussi tous les deux. On a un appui solide de ce côté-là. Au niveau du conseil famille et société, il y a quelques évêques. Hein, et donc, dans ce conseil-là, il y a déjà 2 ans, 2 ans et demi, j'avais poussé à ce qu'on fasse quelque chose. Et honnêtement, ça ne les intéressait pas. Il y a quand même Monseigneur Payet qui avait un petit peu l'idée qu'il fallait peut-être quand même faire quelque chose. Donc le président, donc ça c'est pas mal. C'était pour nous le nouveau président, hein, parce que le président d'avant était Michel Aupetit. Donc Michel Aupetit n'a été qu'un an président du Conseil Famille et Société, donc il est passé un peu comme un ovni. Le temps qu'il rentre dans les dossiers, etc., il était nommé archevêque de Paris. Et il était obligé de décrocher puisqu'il ne pouvait plus être président d'un conseil, étant membre de droit du conseil permanent. Est arrivé Bruno Feuillet. Bruno est un type très sympa, qui travaillait en équipe, donc ça c'est très agréable, mais qui est déjà très prudent, on avance doucement. Hein, voilà. Et donc Bruno, quand même, c'est dit que la question du sport était quand même importante. Moi, j'avais poussé déjà énormément. Et quand on est passé à Rome, bah, ça s'est confirmé. Quand le dicaster nous a dit, bah, écoutez, il faut une coordination, quoi. Donc du coup, Bruno l'a annoncé aux évêques qui ont entériné l'idée qu'il y ait un groupe Église et Sport. Alors pour le moment, il n'a pas reçu de label officiel, mais on a déjà des missions. Alors c'est pour ça que éviter pour le moment d'afficher des choses avec le label de la Conférence des évêques de France, tant que on n'est pas arrivé à une lettre de mission claire et officielle. Et pour y arriver, en fait, il nous demande de travailler un petit peu. Vous allez voir comment. Je vais vous lire deux points précis. Depuis qu'on s'est vu en visio la dernière fois, là, j'ai donc rencontré Jean-Christophe Meyer, qui est le secrétaire général adjoint, qui est donc sur le suivi du Conseil Famille et Société. Il est venu dîner à la maison. Ça a duré 5 heures. On s'est couché plus que tard. C'était juste avant le couvre-feu. Et du coup, il a intégré tout ce que je lui ai dit avec ce qu'il s'était dit au conseil. Et donc, j'ai reçu un petit mail qui est le suivant. Juste, il était envoyé à ma pomme et qui a d'abord fait part. Juste un petit mail pour vous confirmer que suite au dernier Conseil Famille et Société, il a été proposé de travailler le sujet du sport de la manière suivante. Alors, il y a deux points. Premier point, un premier travail à réaliser sur la place du sport aujourd'hui dans la société, sa signification et les enjeux pastoraux pour l'Église. Ce premier travail doit être orienté clairement vers la réalisation d'un document épiscopal qui permette de tracer les contours de la question. Donc là, on a une commande précise. Et c'est quand même tout à fait nouveau. Voilà. Donc il faut qu'on crée un groupe de travail sur un document épiscopal à faire. Je crois qu'il faut qu'on le fasse assez vite. C'est pas si facile que ça. C'est vraiment un exercice pas très simple, hein, pour en avoir piloté déjà, c'est du boulot. Donc on va y revenir tout à l'heure, hein, mais voilà, on a une commande précise qui est ça. Et puis le deuxième point, c'est dans un deuxième temps, et après réalisation de ce document épiscopal, certaines questions plus particulières pourront être approfondies et donner réponse à des besoins particuliers. Entre parenthèses, note, travail sur l'implication de l'Église dans les JO de 2024, autre contribution, trois petits points. Donc, voilà les deux missions qu'on a. En fait, par rapport aux JO de 2024, parce que je sais bien que ça fait partie des questions qui urgent, et je les ai moi-même posées il y a 4 ans, dans la conférence, à travers la commission Justice et Paix. Jusqu'ici, personne ne relevait tellement les questions. J'avais commencé à travailler la question avec Laurence Muñoz, donc on a quelques bouts de texte plus anciens, des propositions de Laurence. Donc j'ai ça dans un coin, on ressortira tout ça sous peu. Ça veut dire concrètement qu'à mon avis, pour les JO de 2024, on a quand même un certain feu vert qui consiste à explorer les questions, à prendre les contacts, etc. Et au conseil, en fait, il s'est dit des choses plus précises, hein, qui ne sont pas dans ce compte-rendu. D'abord, a été nommé un évêque pour ce groupe, pour notre groupe là, Église et Sport, et cet évêque est Jacques Blacas, l'évêque d'Orléans. C'est aussi l'évêque président de Justice et Paix. Et il fait partie du Conseil Famille et Société. Alors je vous dis deux mots sur Jacques pour que vous puissiez situer aussi le contexte. Jacques, jusqu'à maintenant, avait comme fonction nationale d'être président du Conseil de la Solidarité. Une espèce de coordination avec Secours catholique, CCFD, plein d'institutions autour de la solidarité. Mais c'est surtout sous l'angle français, en fait. Voilà. Et les questions internationales le dépassent un peu, il le dit lui-même. Hein. Il était très inquiet en devenant président de la commission Justice et Paix parce qu'il ne parle pas anglais. Et c'est vrai que Donc, en fait, on lui fait des comptes rendus, puis ça marche. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a une semaine, j'ai passé 4 jours en visio, 4 jours complets, hein, la journée entière de visio en anglais avec les commissions justice et paix d'Europe. Donc, Jacques a annoncé aussi au Conseil Famille et Société qu'il se réunissait trop souvent et trop longtemps et que lui ne participerait pas à tout. Alors, en fait, il est un peu perturbé par le fait qu'un de ces prêtres, un de ces jeunes prêtres s'est suicidé. Vous vous souvenez, il y a eu 2 jeunes prêtres qui s'étaient suicidés, un à Rouen et un dans son diocèse. Et qu'avec ces prêtres, ça n'a pas été si facile parce qu'il avait pris l'option d'entrée de jeu de dire bah, s'il y a déni ou suspicion de déni, procureur de la République et compagnie. Hein. Et donc certains de ses prêtres lui reprochent, donc il est en train d'essayer de reconquérir ses prêtres. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il voulait se garder du temps. Alors, on peut comprendre, hein, c'était pas si facile que ça. Jacques, par contre, a une parole très libre au Conseil Famille et Société, donc ça c'est extrêmement agréable. Il ose poser des questions que les autres ne posent pas, donc ça c'est très très bien. Et puis Jacques, il nous a bien dit à la dernière réunion en visioconférence que ça lui faisait beaucoup. Alors, il a quand même dit oui pour Église et Sport, mais ça lui faisait beaucoup Église et Sport, plus Justice et Paix, plus son boulot d'évêque d'Orléans. Ça, c'est pas très grave, c'est juste une question de s'organiser pour que ça ne lui pèse pas et qu'on traite avec lui simplement les questions les plus décisives, les questions clés. Alors, maintenant, pour le groupe Église et Sport, Gilles a fait un premier texte marqué. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des orientations communes un peu claires, propres et nettes sur notre travail, la façon de bosser pour que tout ça se passe en souplesse, mais en même temps soit un vrai service rendu à tout le monde. Et donc, Gilles a fait un premier texte martyr. J'ai déjà eu des réactions de Pascal Badement, qui nous les a envoyées là. Il est en télétravail en ce moment, et comme vous avez compris que pendant plusieurs jours, là, ça doguait complètement, on ne pouvait envoyer aucun mail hein, depuis la conférence. Donc là, ça vient juste d'être résolu apparemment. Donc je n'ai pas pu avoir les dernières réactions de Pascal, mais avec Pascal, on est en train d'échanger sur cette question-là. Et je sais aussi que Gilles avait interrogé Laurence Munoz, il avait enrichi son texte voilà, avec plusieurs réactions. Donc on va continuer de faire ce travail-là, d'essayer de se dégager des orientations claires, faciles. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on fasse un groupe de travail très vite maintenant pour faire le document épiscopal. Et à mon avis, on a un plus, on va le sortir vite, et plus ce sera possible d'accéder à la question des Jeux Olympiques de façon efficace. Parce qu'on est poussé entre autres par les gens de Bruxelles hein, qui disent « Mais nous, on a déjà des choses lancées pour les JO 2024, etc. » Bon. Alors, il y a l'articulation, je vais revenir sur les JO dans quelques instants. Simplement pour le document épiscopal, il faut que vous connaissiez aussi le contexte. Il y a eu un gros contexte de crise à l'intérieur de la conférence des évêques sur ce document épiscopal. On a changé d'équipe de présidence à la conférence des évêques. Ceux qui suivaient le document épiscopal, la publication des documents épiscopaux dans la maison, il y a eu une évolution. Ils avaient pris beaucoup de retard, c'était très compliqué. Moi-même, j'en ai pas dit pour sortir le dernier qu'on a fait, qui était sur la traite des êtres humains dans le monde, qui est un truc sympa, un beau dossier, mais ça n'a pas été simple. Alors, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on va avoir plus de marge sur le nombre de caractères. Et donc, je me suis renseigné, pour le moment, il n'y a eu aucun document épiscopal sur le sport. Donc, on est en train d'ouvrir le chantier, et ça, c'est super intéressant, et on va pouvoir faire un document sans doute plus lourd, plus consistant que d'autres documents épiscopaux. Je pense qu'on va avoir la carte blanche pour ça. L'idée, c'est de l'articuler, entre autres, sur le document du Vatican « Donner le meilleur de soi-même ». J'en ai rediscuté avec Grégoire Cattard et avec Je sais plus si je t'avais discuté avec Gilles. Quand on a lu le texte, on s'est dit, il faut peut-être pas publier in extenso, il faut publier plutôt sans doute des parties clés et ajouter d'autres interventions des papes. Hier, on a eu plein de choses intéressantes, hein. Donc, on pourrait très bien avoir une partie un peu historique sur la question, hein, mais voilà, entre autres. Je crois qu'il faut pas qu'on publie in extenso ce texte parce que c'est pas forcément hyper digeste à lire comme ça. Il faut plutôt qu'on saisisse sans doute pas mal de choses du chapitre 5. Mais voilà, alors, il faut que vous sachiez que ça peut être avec des encadrés techniques. On peut avoir des choses qui nous viennent aussi de l'Europe, hein, du Vatican. On peut avoir des choses qui nous. Je crois qu'il faut qu'on ait des annexes où on dise toutes les institutions qui existent, Luxeuil et compagnie. Où est-ce qu'on trouve les références? Il faut qu'on ait des témoignages. Il faut qu'on regarde du côté de toute la variété du sport. Donc, on en reparlera sous peu. Pascal Girard a déjà envoyé un texte où il liste un certain nombre d'idées, de pistes. Donc ça, on va mettre ça en route très vite. Hein, j'attends juste que Pascal Balmont soit revenu et puis que Gilles soit monté à Paris. Là, il monte à Paris sous peu. Parce qu'il y a quand même des choses où c'est mieux si on se voit à trois, quitte à faire une visio avec Pascal Girard. Hein. Peut-être Laurence Munoz aussi. C'est là qu'il faut qu'on finisse de discerner dans un premier temps. Hein. Avec qui, quoi. Après, on échappera à une espèce de sommaire, de plan général du document épiscopal, et puis on sollicitera les uns et les autres sur des points précis, mais avec des consignes précises, hein, du genre, vous avez droit à 4000 caractères, espace inclus, point barre, quoi. Voilà. Proposer des photos qui ne soient pas non plus, avec les droits des photos, c'est compliqué aussi, ça, hein. À la conférence des évêques, ils ont plus d'une dizaine de procès sur le dos parce que des documents sont sortis avec des photos qui avaient des droits, quoi, hein. Donc il faudra faire aussi extrêmement attention à ça. Bon, on a les juristes qu'il faut, hein. On a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est juste pour vous faire sentir les questions, hein. Le dernier document épiscopal que j'ai piloté, donc sur la traite des êtres humains. Les gens avaient été beaucoup trop prolixes, ça me j'avais passé mon été à réduire de presque moitié tout ce qui avait été envoyé. On avait beau dire 4000 caractères, espace inclus, bah, ils vous en envoyaient 8000, quoi. Bon, alors débrouille-toi avec ça. Donc vous voyez que là, petit à petit, on va être avec des consignes précises. Hein. Mais pour le moment, dans un premier temps, je crois qu'il va falloir faire plutôt un brainstorming pour dire qu'est-ce qu'il est important de mettre dedans. Et surtout, que ce que je vous redis, hein, ce qu'ils ont dit, les évêques, là, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il ouvre beaucoup les choses. Donc, on a un premier travail à réaliser sur la place du sport aujourd'hui dans la société, sa signification et les enjeux pastoraux pour l'Église. Donc, vous voyez que le champ ouvert est large. Et pour un premier document épiscopal sur le sport, je crois que c'est très bien que ce soit comme ça. Hein. Peut-être qu'il faut qu'on dresse plutôt un espèce de panorama ou de quelque chose comme ça, de tout ce qui se fait, de tout ce qui se réfléchit, de tout ce qui se partage. Voilà. Et donc, on aura bien besoin de Gilles Morin, des uns et des autres, hein, pour tout ça. Voilà. Je vais peut-être maintenant en venir aux Jeux Olympiques. Alors, pour les Jeux Olympiques, il s'en est dit un peu plus à l'intérieur du Conseil Famille et Société. Il y a des informations que j'ai récupérées depuis. Donc en fait, j'ai eu un autre copain de séminaire qui est Jean-Yves Namias, qui est l'évêque de Brno, hein, que je ne connais pas encore, qui m'a expliqué qu'en fait, on savait que les évêques de France avaient désigné un laïc pour suivre la question, hein, qui est Arnaud Boutéon. Donc ça c'est une chose. On a compris aussi que l'évêque qui pour l'Île-de-France suivait la question Et Philippe, je suis en train de chercher son nom,
Marseille.
les écoxyviens de Paris,
Marseille.
Philippe Marseille. Jacques Blacard va contacter Philippe Marseille, hein, pour articuler les choses entre ce groupe Église et Sport et puis le gros du travail qui va être quand même sur l'Île-de-France, c'est clair, hein. Alors, il faut savoir aussi que pour les Jeux Olympiques, le gros se passe sur Paris et sur la Seine Saint-Denis, hein. Mais il y a quand même 14 diocèses qui, sous une forme ou sous une autre, ont quelque chose des Jeux Olympiques à réaliser.
En particulier ici.
Voilà. J'ai poussé auprès des évêques deux choses. De part, une idée qui venait de Santiago. Santiago m'a expliqué qu'aux Jeux Olympiques de Rio, en fait, l'Église du Brésil a interrogé tous les athlètes de haut niveau là, qui concouraient en leur proposant de faire des rencontres avec les jeunes dans les favelas. Et donc, ça a été fait. Donc, il y a peut-être des choses de cet ordre-là, au niveau de la pastorale, il y a peut-être des choses possibles à imaginer de ce côté-là, sans doute, hein. Il y a aussi, moi j'ai poussé beaucoup la carte culturelle au niveau des évêques en disant, écoutez, il faudra qu'on négocie peut-être avec l'État français, qu'on discute avec eux de beaucoup plus près. Je devais prendre contact juste avant le confinement, enfin début mars, hein, avec celui qui devait s'en occuper au niveau national des JO et tout ça. Sauf qu'il a changé de mission, il s'appelle Alain Castex. Du coup, le contact n'a pas été pris parce qu'il y a eu les confinements. Alors, il faudra qu'on voit, mais l'idée autour de la culture est la suivante. Les Jeux Olympiques dans l'histoire, en grec et compagnie, pouvaient être liés, par exemple, à des pièces de théâtre, à des choses de cet ordre-là. Et comme Paris aime bien s'afficher comme étant une des capitale mondiale de la culture, à juste titre, il y a peut-être quelque chose à imaginer qui ferait que nous aussi, l'Église pourrait prendre une place un peu originale. Donc, les évêques ont capté ça, je crois. Ils ont capté qu'il pouvait y avoir toute une dimension pastorale importante. Voilà. Alors après, il va y avoir l'articulation avec l'Île-de-France. Alors, je vais vous parler clair aussi. Dans la conférence épiscopale, il y a certains diocèses d'Île-de-France qui sont tellement bien équipés qu'en gros, ils n'ont pas besoin de la conférence des évêques de France. Hein. Moi, j'ai entendu un évêque dont je tairai le nom, hein, d'Île-de-France, me dire, de toute façon, la conférence, on n'en a vraiment pas besoin. Moi, j'ai tous les experts qu'il faut dans mon diocèse. Cela dit, et vous voyez bien qu'entre les tout petits diocèses, les gros diocèses, etc., en fait, il y a quand même besoin qu'il y ait du lien entre tout le monde. On le voit sans arrêt quand il faut s'occuper, je ne sais pas quoi, du document de pastoral catéchétique sorti par Rome et le monnayer, enfin, etc. Donc, ce que je compte faire, c'est assez vite prendre contact avec Arnaud Boutéon. On a dit ça avec Pascal. Allemand, avec les gens d'Île-de-France pour qu'on soit complètement en cohérence, qu'on ne fasse pas de doublons, que les contacts pris avec l'État soient pris au bon niveau par les bonnes personnes selon les questions qu'il y a à traiter. Vous voyez bien qu'à un moment, il faudra aussi que la pastorale sacramentelle et liturgique soient dans le coup. Voilà, donc ça va monter en puissance progressivement. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que le Conseil permanent ait vraiment fixé des lignes claires sur les Jeux Olympiques de 2024. Alors, ce que je peux vous dire aussi, puis je vais en avoir à peu près terminé, c'est que quand j'ai fait cet été cette recherche aux archives des évêques de France, j'ai quand même, hein, donc tous les comptes rendus des conseils permanents, et y compris leur note de travail. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est normalement c'est accessible aux élèves, mais on a dit non, non, trop peu. Bon. Et donc, quand j'observe ça, la question du sport n'apparaît pratiquement jamais, sauf quelquefois quand il y a eu des scandales de dopage, je ne sais pas quoi, quand ils font des échanges sur l'actualité. Alors, deux ou trois fois, c'est apparu pour dire oui, effectivement, c'est scandaleux. Bon. Mais c'est juste pour dire ça et pas plus. En fait, la question, elle n'a jamais été abordée en profondeur. Hein. Simplement, quand le document de 2018 est sorti, ils se sont juste posé la question quelle suite à donner. Je pense que c'est Olivier qui leur avait soumis la question. Olivier Ribadeau d'une part, hein, le secrétaire général à l'époque, hein, c'est un autre copain de séminaire, et Olivier avait dû leur poser la question, on fait quoi de ce document? Alors, c'est resté dans les comptes rendus, on fait quoi de ce document? Point d'interrogation. Et ça n'a pas été plus loin. Hein. Alors, merci à Pascal d'avoir fait la traduction en français. Voilà. Je crois aussi qu'il faut qu'on s'articule bien avec l'idée que dans le monde francophone, peut-être qu'on peut aider d'autres, en tout cas travailler avec d'autres, hein, les Belges, les Suisses, les Canadiens, un certain nombre de pays d'Afrique, hein, pour les documents en commun, pour des traductions communes, pour tout ça. Et puis je vous disais, il y a le champ de l'Europe aussi. Hein. Donc, moi, j'imaginais pas du tout, j'étais curé 20 ans dans mon diocèse. J'imaginais pas du tout ce qui se passait au niveau de l'Europe. Donc, hier, je vous ai dit les trois institutions qui fonctionnent. Donc, les commissions justice et paix Europe, la COMECE et puis la CCCE. Donc, là, je vais aller au renseignement pour voir s'il y a des vis-à-vis, s'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a sûrement des gens qui travaillent déjà là-dessus, bon, je ne sais pas, en Allemagne, en ceci ou cela. Peut-être que ça va être important aussi qu'on contacte. Alors, il y a Alexandra, là, pour la Suisse, c'est bien. Il y a sûrement aussi un petit travail à faire de ce côté-là. Très probablement, les commissions, la COMECE a déjà produit des textes là-dessus, hein, je pense. Donc, on va aller regarder tout ça, puisqu'on fait partie aussi de l'Europe. Donc, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je voulais vous dresser un peu le panorama des questions. J'ai bien entendu aussi ce que dit Gilles Morin en disant que c'est le travail de la base qui est premier. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Et il a tout à fait raison. Hein. Donc, nous, on est plutôt là pour être de lui dans les rouages, mettre des rouages. Publier des choses, encourager, prendre des liens avec l'État, etc. Donc on a l'habitude aussi de prendre des liens avec l'État. Hein. Je vous donnais juste un exemple avec les aumôniers de prison, par exemple, pour les diplômes universitaires. Il y a eu, par exemple, l'État nous avait demandé de mettre en place une coordination téléphonique pour les prisonniers. Pendant le confinement, donc on a mis en place tout ça, aidé entre par Ouest de France d'ailleurs. Bon, voilà. Donc il faut nous utiliser pour ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, mais il ne faut pas non plus nous demander, comment dire, on n'est pas une institution qui arrive par le haut pour plaquer les choses, ce n'est pas ça la conférence des élèves, hein. C'est plutôt de la synchronisation, des échanges d'infos, je peux faire aussi de temps en temps des notes aux évêques, hein. Tous les mercredis, ils reçoivent un paquet d'affaires. Je peux très bien faire monter une note à un moment en disant, écoutez, là, il y a un enjeu, il y a une info, il y a un document qui est sorti, il y a ceci, voilà. Ça peut arriver aussi qu'on fasse des textes pour le président de la conférence. Alors, ça, c'est plutôt pour les liens avec l'étranger. Hein. Si vous dites à un certain moment, avec la conférence des évêques, je sais pas quoi, du Nicaragua, on voudrait envoyer un message de soutien parce que c'est important, parce que je prends un exemple parce que c'est voilà, ce genre de choses que j'ai pu faire déjà. Donc moi je prépare le courrier, puis le président de la conférence écrit à l'autre président de la conférence. Voilà, donc c'est voilà le genre de choses qu'on peut faire et je m'arrête là. Et surtout je suis très admiratif de tout le boulot que vous avez déjà fait. Je sens bien que vous voulez pousser à fond et vous avez raison. Les élèves, vous n'allez pas les pousser à fond comme ça, c'est pas si simple. Donc, nous, on est là pour essayer de faire en sorte. Alors, si je peux te dire une dernière petite chose, c'est que dans les conversations de couloir qui sont extrêmement importantes, en fait, hein, j'ai déjà discuté avec un bon petit paquet d'élèves. Donc, un Dominique Lebrun, quand je lui ai dit qu'on lançait les choses, Dominique m'a dit ah ouais, c'est super, très bien. Donc, j'ai pris contact, y compris avec des élèves non sportifs, comme Jean-Pierre Battu, mais qui est au conseil permanent. Et puis de tendances, entre guillemets, diverses. Hein, parce que dans, on a des élèves avec des opinions, et c'est normal, hein, qui ne convergent pas toujours. Donc, et donc, ça veut dire qu'il y a du débat. Donc, j'ai pris contact déjà et discuté avec pas mal d'évêques. L'autre jour, j'avais au téléphone l'évêque de Saint-Brieuc. Il me demandait des renseignements par rapport à l'écologie et quelqu'un de mon service qui est Elena Lassida pour l'écologie. Alors, j'ai donné tous les renseignements, puis j'en ai profité pour lui dire, tiens, au fait, on est en train de créer une antenne église espoir. Ah, bon, mais j'ai ma, alors, je sais plus si c'est sa sœur, vous savez, je trouve sa belle-sœur, ou je sais pas quoi, qui doit être au comité, responsable du comité olympique pour la région Pays d'Oire. Enfin, voilà. Donc, ouais, tu peux la contacter. Enfin, bon. Voilà. C'est aussi comme ça que ça se passe. Je m'arrête.
Je complète sur un cadre. Qui est présidente donc, du comité régional olympique et sportif de Pays d'Oire, qui est membre de la FSCF, et qui est au conseil d'administration de l'IFEPSA, qui est l'un des instituts qui forme les professeurs de l'éducation physique. Donc, pour préciser que le monde est quand même petit, et que dans les rapports avec les instances politiques, souvent il y a des liens entre FSCF, UCL et autres organisations qui existent déjà, et qui sont peut-être à mettre en lumière. Je trouve que c'est un bon exemple hein, que l'évêque parle de sa sœur ou de sa belle-sœur et de s'apercevoir hein, qu'on est en plein dans la cible que l'on aimerait développer.
Il y a une chose qui m'étonne, il n'a pas du tout parlé des JO d'Albert Wiesner. Je sais bien que c'était des Jeux d'hiver, que c'était une autre époque. Mais à l'époque, il s'est fait des choses au roi des prophètes.
Oui, mais en fait, là, Alain a présenté plus un panel de...
Enfin, il y a eu une petite partie
historique. Oui, enfin, on ne pouvait pas parler de tout non plus. Donc c'est...
Alors, c'est... Je peux donner une précision par rapport aux JO d'Albertville. J'ai commencé à rechercher dans les archives pour voir si on a des affaires de noter. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. Mais je sais déjà un certain nombre d'infos de cette époque-là, j'en ai déjà quelques-unes. Oui, il y a eu une pratique, moi je crois que les JO ont aussi évolué depuis, donc entre autres il y avait des choses, il y a des choses quelque part au niveau des célébrations qui ont été faites à cette époque-là. Il y a quand même une dernière petite chose que je voudrais ajouter, il faut comment on peut travailler ça, mais il faut absolument que le monde du handicap soit intégré dans notre réflexion dès le départ. Hein. Je suis un peu gêné par le fait qu'il y ait des JO et puis des Jeux paralympiques. Enfin, mais je suis béotien dans la question, hein, mais moi, la question que je me pose d'entrée de jeu, c'est de dire pourquoi ces deux instances différentes. Pourquoi que ça ne se passe pas en même temps? Voilà. Encore une toute petite parenthèse aussi, dans nos recherches sur le numérique, ça impacte tous les domaines de la vie, y compris le sport, et y compris, je sais pas quoi, les godasses assistés qui vous font courir plus vite, y compris, et jusqu'où c'est éthique ou pas. Enfin, vous voyez, il y a aussi tout ça. Bon, je laisse pour le moment, j'ai dit assez de choses.
Juste peut-être préciser par rapport aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques, effectivement c'est décalé dans le temps, mais c'est dans les mêmes lieux. Il y a une époque où les Jeux paralympiques n'étaient pas dans les mêmes lieux. Donc il y a eu un certain progrès, mais c'est vrai que c'est la question, c'est que ben, il y a d'un côté le CIO et de l'autre côté l'IPC. Donc c'est aussi deux fédérations différentes qui gère les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc là aussi, il y a des questions politiques. Je ne sais pas, Joël pourrait peut-être préciser peut-être un peu plus les choses.
Oui, c'est une question politique, c'est que ça, en termes d'image, ça a été ramené dans les années 60, je crois, enfin, quand ça a été lancé. C'est arrivé beaucoup plus tardivement, les Jeux paralympiques,
Je crois bien que c'est 1964.
4 à Rome.
Je ne sais plus.
Dans l'embryon, c'est 48, les Jeux de Londres, avec un lien avec la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de personnes qui étaient. Et puis après, ça a pris de l'ampleur en 64.
Voilà, c'est
Et ça a
vraiment en
été ramené dans
64 que
les
c'est.
Jeux en
Oui,
64.
oui.
Donc oui, après, ça fait partie des discussions, bah, notamment alors après, le monde du handisport a peur d'être peut-être aussi absorbé et dilué si c'est fait en même temps. Il y a des questions aussi qui se posent, est-ce que ça serait valorisé autant? Donc ils sont assez partagés aussi à l'intérieur. Mais déjà que ça puisse se faire sur le même lieu, c'est déjà une avancée. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est que ça puisse peut-être se faire dans la continuité et non pas
Un mois
un
après.
mois après, quoi.
Ouais.
Où l'effervescence retombe un peu.
Mais ça aura un enjeu aussi pour nous de dire voilà, quelle proposition on fait pour les Jeux olympiques et quelle proposition on fait aussi pour les Jeux paralympiques. C'est-à-dire que il faudra bien qu'on investisse autant sur les deux lieux. Ça pourrait être aussi un témoignage, que ce soit par rapport aux médias ou par rapport à d'autres acteurs, de dire qu'on met autant de moyens sur les Jeux olympiques que sur les Jeux paralympiques.
À titre d'exemple, Londres 2012 a été le summum parce que les Anglais sont dans l'inclusion, ils ont valorisé, ils ont retransmis pratiquement autant d'heures les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. La France doit pouvoir suivre au niveau média, donc là il y a une interpellation à leur faire. D'ailleurs, certains ont exprimé un mécontentement aux mondiaux, hein, cet athlétisme, parathlétisme, qui n'ont quasiment pas été retransmis. France 2 a fait des choix drastiques, donc là il y a eu un peu des leviers de bouclier par rapport à ça. Mais en Angleterre, pour y avoir été en 2017 pour les mondiaux d'athlétisme et para-athlétique, alors pour les mondiaux, évidemment, le stade olympique était rempli à ras-bord, parce que aussi c'était la dernière d'Usain Bolt. Mais tout le premier cercle du stade était rempli pour les para-athlétiques. Et il y a eu de gros efforts qui ont été faits, notamment aussi avec les scolaires. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait au moins 10 000 personnes dans le stade. Et ça, c'est la force des Anglais de pouvoir venir en famille et de considérer que c'est du sport comme tout autre sport. Donc là, il y a une mobilisation qui se fait. Luxel, ça, il y a eu des partenariats, quand notamment il y a les championnats de France et l'Open de Paris à Charletti, où il y a beaucoup de scolaires, aussi bien publics que privés, qui viennent remplir les gradins pour créer aussi une ambiance. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur le mois de septembre 2024, je crois, hein, pour qu'aussi c'est propice aux sorties scolaires, contrairement aux Jeux Olympiques. De toute manière, ça ne les intéresse pas, les sorties scolaires, puisqu'il faut faire de la billetterie, il faut faire du chiffre. Donc, vendre à demi-tarif ou tiers du prix, ça ne va pas les intéresser. Mais pour les Paralympiques, ça peut être intéressant d'organiser quelque chose par diocèse avec les établissements catholiques.
Une petite précision sur la pastorale du monde du handicap. Il y a eu toute une évolution depuis quoi, une quinzaine d'années. Avant, on a travaillé comme souvent le reste de la société en faisant pour les handicapés. Et là, on est beaucoup plus dans une pastorale inclusive. Donc, il y a un homme qui est décédé là, il n'y a pas très longtemps, Monsieur Parizeau, qui a été préfet, qui a été diacre permanent et qui a été handicapé. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai envoyé la visio, mais je ne sais pas si elle vous est arrivée à Gilles. Au moins à Gilles, je ne sais plus à qui je l'ai envoyé. Simplement, c'est intéressant de l'entendre. L'idée, c'est que, mais c'est pareil, dans l'Église de France, maintenant c'est comme ça, la pastorale est inclusive, c'est-à-dire, on ne fait pas pour les gens, mais c'est eux-mêmes qui font ou on fait ensemble. Voilà. Et ça, c'est quand même un changement de perspective important, hein, qui n'est pas passé dans tous les diocèses. Je vois Christine quand elle. Quand elle revient de certains diocèses, elle dit, ah, mais ils ont encore pas intégré ça, quoi. Vous savez, c'est un peu la même démarche qu'il y avait eu pour le diaconir, là. Hein? Voilà.
D'accord. Et ben...